RFI, il est 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa. L'actualité africaine avec Nemo en piste. Bonjour Nemo.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Après son passage par Goma vendredi, Joseph Kabila visé par des sanctions.
Des poursuites judiciaires engagées contre l'ancien président congolais. Ses biens vont être saisis et les activités de son parti sont suspendues. Kinshasa l'accuse de haute trahison et le dit toujours lié à la FCM23. Réaction de son parti et de l'Assado dès le début de ce journal. Se dirige-t-on vers un dialogue politique entre pouvoir et opposition en Centrafrique? Faustin Archange Touadéra avait déclaré tendre la main au bloc républicain pour la défense de la Constitution pour consolider la paix. Et ce matin, l'un de ses conseillers laisse entendre que des discussions devraient avoir lieu. Autre question, la présence diplomatique américaine va-t-elle être réduite sur le continent africain? Washington dément une information dévoilée par le New York Times. Vive réaction aux Comores alors que des bruits courent toujours sur une potentielle intégration de Mayotte à la Commission de l'Océan Indien. Mayotte où Emmanuel Macron entame une tournée ce lundi. Et puis un label pour mettre en valeur une trentaine de produits malgaches, les ambitions des autorités de la Grande Île qui veulent en enregistrer une trentaine sous indication géographique. C'était l'information de la fin de semaine en République démocratique du Congo. Le passage de sources sûres de Joseph Kabila à Goma vendredi. L'ancien président avait promis qu'il reviendrait, lui qui est accusé par son successeur Félix Tshisekedi d'être lié au groupe armé AFCM23. S'en sont suivis plusieurs rebondissements. Kinshasa a décidé d'une série de mesures contre lui et ce que les autorités appellent ses complices. Des poursuites judiciaires ont été engagées, la saisie de ses biens a été annoncée et les activités de son parti, le PPRD, suspendues. Je vous propose d'écouter la réaction de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie.
Une mesure arbitraire digne des régimes totalitaires de triste mémoire. Et puis fondée sur quoi? Sur des rumeurs. Et on vit Kabila là-bas, sans en apporter une seule preuve. C'est quand même grave ça. Nous continuons à croire que c'est des affabulations fabriquées par le pouvoir en place pour occulter leur échec dans cette gestion de la guerre, la mauvaise gouvernance. Comme Joseph Kabila Kabangi a vraiment pointé du doigt là où ça blesse, alors il devient diable parce que simplement il a annoncé qu'il va parler, il a annoncé qu'il veut rentrer et apporter sa contribution, sa pierre, ce qui est dans ce communiqué. Le ministre de la Justice vous dit, il a fait injonction au procureur général de la République avant même que celui-ci n'envoie rien que des invitations aux gens pour répondre. Lui a déjà décidé. On devra saisir les biens meubles et immeubles. Par rapport à quel jugement? À quelle enquête? Du populisme au sommet de l'État. Imbroglio total.
Le gouvernement congolais qui accuse Joseph Kabila de haute trahison pour son implication présumée dans ce que Kinshasa décrit comme l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Je vous propose d'écouter une autre réaction, celle de Jean-Claude Katende, le président de l'Assado, l'Association africaine de défense des droits de l'homme.
Tantôt on dit qu'il est là-bas, tantôt on dit qu'il n'est pas là. Nous restons sur notre soif, comme lui-même avait promis qu'il ferait un discours à partir de là. Les faits qui sont portés contre le président Kabila sont extrêmement graves, exigent des preuves irréfutables que les choses qu'on dit contre lui sont exactement vraies avant de lancer ce genre de poursuites. On ne peut pas considérer que le fait pour lui d'aller à Goma soit constitutif d'une infraction. Ceux qui sont au pouvoir sont pressés d'aller très vite, mais il est important toujours de documenter suffisamment les faits, même s'ils sont graves, pour que une fois la procédure mise en branle, qu'on ne puisse pas dire qu'on a commis des erreurs et qu'il faut faire la marche arrière. Elle devra vérifier que toutes les conditions ont été réalisées pour ne pas verser dans l'agitation des politiciens.
Les propos de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, et de Jean-Claude Katende, président de l'Assado, tous deux recueillis par notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégua. En Centrafrique, les interrogations autour de la présidentielle fixée au mois de décembre prochain sont encore nombreuses. Faustin Archange Touadéra va-t-il ou non briguer un troisième mandat consécutif à la tête du pays? L'opposition est vent debout contre cette cette éventualité quand le principal intéressé dit pour l'instant se concentrer sur les affaires de l'État. Autre question, en suspens, y aura-t-il un dialogue politique entre les autorités et l'opposition ? Eh bien, ce matin, sur RFI, Fidel Gwandjika, ministre conseiller spécial du président, semble évoquer cette possibilité. Plus de précision avec Paul Lorgerie.
Faustin Archange Touadéra l'avait déjà annoncé à demi-mot le 30 mars dernier. Lors d'un discours donné à l'occasion du 4e anniversaire de son 2e mandat, le président centrafricain avait déclaré tendre la main au bloc républicain pour la défense de la Constitution afin de consolider la paix par le dialogue. Selon son conseiller spécial Fidel Gwandjika, des membres du gouvernement ainsi que d'autres institutions républicaines seront chargés d'impulser ce dialogue. Mais je cite, nous attendons du BRDC les points qu'ils souhaiteront aborder pour que le gouvernement se mette au travail, nous confie M. Gwandjika. Un nouveau signe d'apaisement envers l'opposition. Vent debout contre un potentiel 3e mandat du chef de l'État. Le 26 mars dernier, le président a désavoué son ministre de l'Intérieur en lui ordonnant d'autoriser une marche de l'opposition prévue le 4 avril. Marche que le ministre avait pourtant interdite la veille. Le 17 avril, le coordinateur du BRDC, Maître Crépin Boligumba, s'est montré ouvert à l'idée d'un dialogue tout en dénonçant une posture médiatique faite pour tromper, argumentant que le chef de l'État est, je cite, contraint à donner des gages à la communauté internationale. En attendant, le leadership du BRDC a annoncé l'organisation d'une nouvelle manifestation le 31 mai.
Fidel Gwandjika que vous retrouvez ce matin sur nos antennes. Il est l'invité de Christophe Boisbouvier. Entretien à retrouver en intégralité aux alentours de 5h45 et 6h45, temps universel. Le gouvernement tchadien et le comité d'autodéfense de Miski ont signé un accord hier dimanche. Un texte qui pourrait mettre fin à plus de 7 ans de conflit. En 2018, des tensions avaient éclaté dans le Tibesti, dans l'extrême nord du pays. La population de Miski reprochait au gouvernement d'Idriss Déby d'y accaparer les richesses aurifères. Un conflit armé avait alors duré plusieurs mois avant qu'un accord de cessez-le-feu ne soit trouvé en 2019. Mais depuis, la question de l'exploitation des mines n'avait toujours pas été réglée, et ce, malgré plusieurs tentatives de négociation, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président Mahamat Idriss Déby. Les États-Unis de Donald Trump auraient-ils en tête de réduire leur présence diplomatique sur le continent africain et particulièrement en Afrique subsaharienne ? C'est en tout cas ce que laisse entendre le New York Times, qui évoque dans ses colonnes un projet de refonte radicale du département d'État. Une information pour l'heure démentie par le chef de la diplomatie américaine. RFI New York, Karine Houghton.
Un projet de restructuration du département d'État encore secret, mais dont le New York Times a pu accéder aux détails. Et le plus grand changement consiste en la réorganisation de la présence diplomatique américaine en 4 régions différentes. L'Eurasie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. Exit l'Afrique, donc. L'actuel bureau pour l'Afrique serait ainsi supprimé et remplacé par un bureau de l'envoyé spécial pour les affaires africaines qui dépendrait du Conseil national de sécurité interne de la Maison-Blanche et non du département d'État. Le projet indique aussi que toutes les ambassades et tous les consulats non essentiels en Afrique subsaharienne seront fermés. Enfin, toutes les missions restantes seront regroupées sous l'autorité d'un envoyé spécial. Par ailleurs, plusieurs médias américains ont rapporté cette semaine de potentielles coupes drastiques à venir dans le budget du département d'État qui conduirait à la fin du financement de l'ONU. Or, la majeure partie de l'agenda du Conseil de sécurité concerne le continent africain. Karine Houghton, New York, RFI.
RFI, 6h39, ici à Paris. Emmanuel Macron en tournée dans l'océan Indien à partir de ce lundi. Le président français commence par Mayotte, alors que l'île est toujours en pleine reconstruction après le passage du cyclone Chido. Il doit y rencontrer des habitants, mais également les élus. Et à 3 jours désormais de l'ouverture d'un sommet de la COI, la Commission de l'océan Indien, à Madagascar, ce sera jeudi. Des rumeurs circulent encore sur la potentielle intégration de Mayotte à l'organisation régionale. Une perspective vivement écartée par les Comores qui tiennent à rappeler que, je cite, Mayotte est comorienne et le restera à jamais et que sa souveraineté n'est pas négociable. La correspondance d'Abdallah Zembaba à Moroni.
Pour l'ambassadeur Imam Abdillah, ancien officier permanent de liaison auprès de la COI, la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte ne devrait pas être perçue comme une crainte sur les velléités liées à l'île dans l'organisation régionale. Depuis 2018, la France mène une politique indo-pacifique, incluant le sud-ouest de l'océan Indien, où elle dit veiller sur ses intérêts, notamment stratégiques, pour sa sécurité et sa prospérité. Sur la question de Mayotte, la position de Moroni est claire, l'île est comorienne et ne ne peut intégrer la commission de l'océan Indien en tant qu'entité française puisqu'elle y est déjà en tant que comorienne. L'ambassadeur Imam Abdillah dénonce une guerre de communication menée par certains élus maoris et de rappeler qu'aucune discussion n'est en cours au sein de la COI sur ce sujet. Une ligne rouge réaffirmée aux Seychelles le 15 avril, le ministre comorien des Affaires étrangères a rejeté toute tentative d'association de Mayotte à la COI au nom du respect de l'intégrité territoriale et du droit international. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
Emmanuel Macron qui, je vous le disais, doit donc se rendre à Madagascar pour le sommet de la commission de l'océan Indien, le chef de l'État français qui se rendra également sur l'île de la Réunion. À la fin de ce journal, justement, à Madagascar, mieux protéger les produits artisanaux de la grande île. C'est l'un des objectifs du ministère du Commerce et des acteurs locaux. Pour cela, les autorités comptent bien enregistrer une trentaine de ces produits sous indication géographique, sorte de label qui garantit l'origine et la qualité du produit, du riz Madame Rose à la vanille, la soie sauvage en passant par le cacao, du sambiran, une appellation qui les valoriserait face à la concurrence étrangère. Reportage signé Sarah Teto.
Dans les sous-bois humides de la vallée du Sambiran, au nord de l'île, les cabosses colorées constellent les troncs des cacaoyers. À l'intérieur, des fèves de cacao au profil organoleptique d'exception qui pourraient bien, d'ici quelques années, être protégées par l'appellation « indication géographique ». Philippe Pédelahore, agroéconomiste au CIRAD, apporte son expertise sur le projet.
L'IG impose à définir un cahier des charges très précis que chacun des membres du groupement devra suivre et qui garantit que la qualité historique, la qualité traditionnelle est bien respectée et qui va aussi, grâce à des contrôles et à une traçabilité, garantir que le produit vient bien exclusivement de la région de Sambiran.
Ce label est censé permettre aux clients intermédiaires ou finaux d'être sûrs de la qualité et de l'origine de leur cacao quand ils achèteront une plaquette de chocolat cacao de Sambiran.
Alors ça demande effectivement un travail en plus, puisque vous l'avez compris, il y a un système de contrôle qui est adossé à l'indication géographique. Mais le bénéfice net des producteurs, mais aussi des différents maillons de la filière, des transformateurs, des exportateurs, peut augmenter. Et comme c'est les producteurs eux-mêmes qui définissent le cahier des charges, une plus grande partie du bénéfice leur revient.
Au Cameroun, le prix du poivre de Penja a été multiplié par 4 en une décennie grâce en partie à l'appellation IG. Toutefois, ce label n'a rien de magique. Plusieurs produits, à commencer par le café Ziama Macinta de Guinée-Conakry, n'ont pas réussi à maintenir leur débouché à l'étranger malgré l'obtention de l'appellation. Sarah Teto, Antananarive, RFI.
Il est 7h42, Antananarive.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre, reportage à Marseille, dans le sud de la France, où Forum Ancrage, où les diasporas africaines agissent à leur manière au renforcement des relations entre la France et les pays du continent. Le dossier Afrique Éco consacré à la crise alimentaire qui persiste en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Vous l'avez entendu il y a quelques minutes, les autorités centrafricaines se disent prêtes à un dialogue avec l'opposition. Fidel Gwandjika, ministre conseiller spécial du président, est notre invité. Et puis c'est lundi, le retour de Maman qui nous dit qu'au Gondwana aussi, on célèbre le week-end pascal. Tout de suite, place au sport. Avec vous, Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et on commence, une fois n'est pas coutume, par du surf. Une compétition fait son retour sur le littoral ivoirien.
Et plus précisément à Grand-Révin, à l'ouest du pays. Connu pour ses belles vagues, le village de pêcheurs accueille depuis samedi et jusqu'à aujourd'hui le Grand-Révin Surf Contest. Les meilleurs surfeurs de Côte d'Ivoire s'affrontent dans ce village 13 ans après la dernière compétition du même type. Le retour d'une très belle ambiance. Reportage Yoann Gourlet.
Des cocotiers, des tentes et de la musique, le Grand-Révin Surf Contest a des airs de festival ce week-end. Sur la plage, près de 200 personnes admirent les surfeurs ivoiriens et européens dompter les belles vagues de ce village de pêcheurs. Le surfeur Eric Kwaku sort de l'eau, ravi.
Ouais, je suis content. Déjà, moi c'est ma première fois que je compétis ici. C'est pas moi, c'est l'ambiance, ça anime l'endroit et c'est intéressant de voir ça.
Grand-Révin retrouve des couleurs après 13 ans sans compétition. La dernière, la Kame Surf Contest, faisait office de championnat national. Mais l'état catastrophique de la côtière, la route allant d'Abidjan à San Pedro, avait mis Grand-Révin hors du circuit. L'an dernier, pour la Cannes, la route a finalement été refaite. Et Walid Djebaï, le fondateur de la Fédération Ivoirienne de Surf, à l'origine de l'événement, avait à cœur de remettre ce village sur la carte.
Les enfants ont grandi avec tous ces expatriés et ivoiriens qui venaient ici à l'époque surfer. Ils ont été inspirés, ils ont aimé ça, ce sont des gens de l'eau, ce sont des watermen, ce sont des gens qui vivent, ce sont des pêcheurs, donc ils ont quand même un lien avec l'océan. Et aujourd'hui, après 20 ans, tous ces petits-enfants que j'ai vus grandir ici sont d'excellents surfeurs.
Walid Jebaï pense même que Drevin a le potentiel pour accueillir de grandes compétitions continentales et internationales dans les années à venir. Youen Gourlet, Grand Drevin, RFI.
Allez, des plages et des planches de surf aux pelouses de football. Les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine ont débuté hier, Victor.
Et la renaissance de Berkane a déjà un pied en finale. Large succès sur les Algériens du CS Constantine, 4-0. Le Simba SC poids lourd tanzanien a pris une belle option, 1-0 contre l'équipe sud-africaine de Stellenbosch. Un but inscrit par l'Ivoirien Jean-Charles Ahoua.
En Angleterre, Liverpool se rapproche encore un peu plus de la couronne.
Mo Salah sa bande sont allés gagner à Leicester 1-0. Ils ont toujours 13 points d'avance à 5 journées de la fin sur Arsenal. Tandis que Nottingham s'essouffle longtemps sur le podium. L'équipe surprise de la saison n'est plus que 6e du classement et reste sur 2 défaites avant d'affronter ce soir Tottenham. Blessé au mollet, le défenseur nigérian Olaina était absent lors de ces deux matchs et cela s'est fait sentir, Baptiste Leduc.
Il n'est peut-être pas le plus décisif de son équipe, mais Olaina est un rouage essentiel de la machine Nottingham Forest. Avant sa blessure, le Nigérian était même le joueur de champ le plus utilisé par Nuno Espirito Santo. Le coach portugais attend son retour avec impatience, mais il ne prendra pas de risque avec le latéral de 28 ans.
On va évaluer son état. Ola ne s'est pas entraîné cette semaine, il restait quelques problèmes. On regarde au jour le jour.
La troisième meilleure défense de Première Ligue a besoin d'Olaina pour bien terminer la saison, avant de penser à l'avenir. Le latéral nigérian aux 40 sélections avec les Super Eagles arrive en fin de contrat en juin. Et selon plusieurs médias britanniques, Liverpool surveillerait de près sa situation pour remplacer Trent Alexander-Arnold en cas de départ pour Madrid. Mais il faudra convaincre Aina de quitter un club où il s'épanouit.
Moi j'espère rester, je m'amuse vraiment bien ici, j'aime les joueurs, le staff, les gens, le cadre est super, donc j'espère rester longtemps.
Pour retenir son défenseur, une qualification en Coupe d'Europe serait bienvenue pour Nottingham.
Baptiste Leduc.
Merci Victor Missistrano, on vous retrouve tout au long de la matinée pour les sports sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Et les principaux titres de ce lundi 21 avril 2025, c'est à minuit tout à l'heure qu'a pris fin la trêve annoncée par la Russie dans sa guerre en Ukraine à l'occasion de la fête de Pâques, trêve d'un peu plus de 24 heures, jamais véritablement respectée. Kiev dit avoir compté plus de 2000 violations du cessez-le-feu. On en parlait, Emmanuel Macron à Mayotte ce lundi, une tournée de 5 jours dans l'océan Indien, déplacement qui l'amènera ensuite à la Réunion sur l'île Maurice et à Madagascar où il prendra part au sommet de la Commission de l'océan Indien. Il est 6h47 ici à Paris. Redessiner les relations entre la France et les pays du continent africain. C'était l'un des objectifs des organisateurs du forum Ancrage de Marseille. C'est dans le sud de la France. La France qui mise en partie sur les diasporas pour retisser ses liens. Pourtant, ces diasporas n'attendent pas les discours pour faire bouger les lignes. Elles sont déjà à l'origine de plusieurs initiatives entre pays d'origine et France. Reportage de Christina Okello.
Elles vivent en France, mais gardent les yeux tournés vers l'Afrique. Au forum Ancrage à Marseille, des membres de la diaspora racontent comment elles agissent des deux côtés.
Moi, je m'appelle Nadia Tiswadiki et je dirige une structure qui s'appelle l'Agence nationale pour la promotion des investissements aux Comores.
Née en France, Nadia Tiswadiki a choisi de repartir aux Comores, une décision qu'elle décrit comme un retour à l'essentiel.
C'est la terre-mère. Et quand on arrive là-bas, on se dit que tout ce qu'on fait peut avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on ferait ici.
Mais elle reste attachée à Marseille, point d'ancrage historique de sa communauté.
La diaspora comorienne, qui sont venus en France, ils venaient via la marine marchande. Quand on arrive de l'Afrique, c'est le premier endroit où on accoste.
À Marseille, d'autres choisissent d'agir ici, en France.
Je suis Moussa Camara. Le fondateur et président des Déterminés.
Moussa Camara accompagne de jeunes entrepreneurs issus des quartiers et défend l'idée d'un engagement ancré dans une double culture.
Moi, je suis français d'origine malienne. Mes parents sont au Mali, j'ai de la famille là-bas. Je suis attaché à mon pays, la France, mais je suis aussi attaché à mon pays d'origine. Et c'est pas possible de ne pas créer des ponts. Il y a toujours quelque chose à construire. C'est ça, ancrage culturel, ancré dans nos richesses, ancré dans notre origine, dans notre double origine. Et c'est ça le mot ancrage.
Même quand les États rompent le dialogue, les échanges humains, eux, continuent. Malbila Yero est burkinabé, volontaire en mission à Marseille.
Pour moi, c'est Malbila Yero. Je suis volontaire de solidarité internationale.
Dans un contexte de désaccord entre son pays et la France, y croire encore aux rencontres et au vivre ensemble.
Le forum en classe permet à voir autrement le monde et de diversifier les relations, de se reposer les questions et construire une dynamique plus, comment dirais-je, réciproque. Autrement, c'est cette ouverture aussi à d'autres, à d'horizons, sans distinction aucune. Ça, c'est un élément important aussi qui permet de renforcer les liens.
Des liens entre peuples et non plus seulement entre États. À Marseille, carrefour symbolique, ces diasporas ne parlent pas de rupture, mais d'avenir partagé. Christina Okello, Marseille, RFI.
Un reportage que vous pouvez réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Les habitants d'Afrique de l'Ouest et du Sahel font toujours face à une forte insécurité alimentaire. Plus de 30 millions d'entre eux en souffrent et les chiffres pourraient augmenter. Une situation évoquée, décortiquée même il y a une semaine à l'OCDE à Paris, en présence du réseau de prévention des crises alimentaires. Et l'une des premières conclusions tirées, c'est que les récoltes sont en baisse. Charlotte Cossé en parle pour Afrique Éco.
Malgré une bonne campagne de saison des pluies, les récoltes n'ont pas été au rendez-vous. En moyenne, selon les statistiques, la production céréalière a baissé de 5% par habitant et l'insécurité alimentaire progresse. Différents facteurs expliquent cela, met en avant Abdoulaye Mohamadou, le secrétaire exécutif du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le CILS.
Nous avons des facteurs aggravants, comme l'insécurité civile qui fait que beaucoup de populations sont déplacées et donc ont perdu leur capital productif. Nous avons également la situation des marchés, une forte inflation qui fait qu'il y a une tendance haussière depuis quelques années, où les prix ne redescendent pas. Traditionnellement, on est dans la période des récoltes, les prix baissent, mais là, on a une tendance sur la région extrêmement inquiétante liée à la dépréciation aussi de certaines monnaies dans certaines régions.
Pour lui, il existe également une dimension politique évidente. Les accords de Malabo prévoyaient un engagement financier de 10% des ressources des États dans l'agriculture.
Malabo n'a jamais été vraiment atteint. Il y a de nouveaux facteurs aggravants. Aujourd'hui, avec le terrorisme et l'insécurité, les arbitrages budgétaires se font malheureusement en faveur du secteur agricole au profit de tout ce qui est défense et sécurité.
Nana Touré est la directrice du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE, elle abonde en ce sens.
Cette crise est récurrente, on ne peut plus la considérer comme conjoncturelle ou une question d'urgence. Donc la question de planification est au cœur des décisions et qui dit planification dit priorité, dit aussi volonté politique de non seulement reconnaître l'existence de cette récurrence et aussi la nécessité d'investir les budgets et les mécanismes nécessaires qu'il faut pour répondre à cette récurrence-là.
Cette dynamique doit être régionale et ceci malgré la création de l'AES et de la sortie de ces trois pays de la CEDEAO.
Je crois que l'espace communautaire existe encore, il y a des corridors qui existent encore entre les communautés et des corridors de commerce au niveau des différents espaces. Donc je ne pense pas que la dimension politique interfère à ce niveau-là et que les systèmes sont en place et sont fonctionnels encore.
Les coupes drastiques du USAID et les baisses générales de l'aide publique au développement auront sans doute un impact sur la prochaine campagne. Les évaluations sont en cours.
Charlotte Cossé du service économie de Radio France Internationale. On en parlait dans le journal il y a quelques minutes. Le pouvoir centrafricain, à quelques mois de la présidentielle, semble dire oui à un dialogue politique avec l'opposition. Il y a une vingtaine de jours, le président Faustin Archange Touadéra le disait déjà à demi-mot. Quelques jours après une manifestation du BRDC, le bloc républicain pour la défense de la Constitution était autorisé. Et ce matin, donc, au micro de RFI, Fidel Gwandjika, ministre conseiller spécial du chef de l'État, confirme bel et bien l'information. Un dialogue potentiel donc, mais avec qui et sur quel sujet? Fidel Gwandjika est l'invité de Christophe Beaubouvier.
Écoutez, le président de la République vient de marquer son accord pour l'organisation d'un dialogue politique avec le BRDC. Mais le président de la République ne va pas s'asseoir avec les leaders de l'opposition démocratique autour d'une même table pour faire ce dialogue parce que ces opposants-là ne sont pas à son niveau. C'est le gouvernement qui sera appelé à les attendre et certainement d'autres institutions républicaines qui vont s'asseoir avec eux pour discuter de cette affaire-là.
Donc il y aura un
dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition du BRDC, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution.
Bien sûr.
Et au niveau du gouvernement, qui pourrait participer à ce nouveau dialogue politique?
Ben, on attend du BRDC les points qu'ils vont soulever pour que le gouvernement s'attelle déjà sur ces points-là.
Alors, l'une des requêtes de l'opposition, ce sont des élections inclusives. Et est-ce qu'au terme de ce dialogue politique, les candidats Anis et Georges Dologuele, Crépin Boligoumba et Dominique Yandoka, qui sont actuellement binationaux, pourront être candidats?
Mais la seule condition, c'est qu'ils renoncent à leur nationalité le plus rapidement possible pour qu'ils restent dans le délai pour briguer la magistrature suprême de l'État.
Donc oui, un dialogue politique.
Ben, le président a marqué son accord et le gouvernement attend les propositions du PRDC et peut-être que c'est Fidel Bondika qui conduira les pouvoirs publics comme d'habitude.
Donc vous pourriez diriger la délégation du gouvernement dans ce futur dialogue politique?
J'en ai la capacité et les compétences.
Entretien entre Fidel Guandjika et Christophe Boisbouvier à retrouver sur la longueur dans un peu moins d'une heure sur nos antennes et également sur notre site internet www.rfi.fr. 6h56 ici à Paris. Dans quelques minutes maintenant, on retrouve Andréane Mellard pour le début d'RFI Matin. Juste avant, des tours habituels le lundi par le Gondwana de Maman, et là-bas aussi on célèbre Pâques, mais à la manière gondwanesque.
Oui, la très très démocratique République est un pays laïque dans la définition ouverte et universelle de la laïcité, à savoir un espace où toutes les religions peuvent s'épanouir librement sans autre contrainte que celle de respecter le vivre ensemble. Bon, ceci étant dit, on va quand même se dire la vérité, les amis. Le Gondwana est comme tous ces pays qui n'ont que la laïcité à la bouche, à toute heure, à toutes les secondes, à toutes les sauces. Ici aussi, il y a religion et religion. Certaines religions peuvent gambader gaiement, tandis que d'autres, elles ont intérêt à ne pas trop la ramener. En d'autres termes, tout le monde sait qu'en très très démocratique république, la mère de toutes les religions, ben c'est le culte à notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur, roi des rois, seigneur des seigneurs, le lion conquérant de la vallée du Gondwana, religion d'État, croyance obligée, tu veux ou tu veux pas. Par contre, toute autre religion dissidente et rebelle, un tant soit peu plus ou moins proche de l'opposition politique gondwanaise, est une religion dangereuse pour ses croyants, qui ne sont rien d'autre que des païens hérétiques qu'on doit extirper de notre belle et chaleureuse patrie. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en très très démocratique république, on célèbre aussi la fête de Pâques strictement selon l'évangile de président fondateur. Par exemple, dans la Pâques gondwanaise, hors de question de parler de mort ou de résurrection, puisque vous le savez, notre leader bien-aimé est immortel et incandescent est son règne. Et, autre différence, au Gondwana, Pâques se fête tout le long de l'année. Ouais, spécialement le côté ludique de cette fête sainte, c'est-à-dire la chasse aux œufs de Pâques. Ben oui, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette tradition catholique, sachez que des œufs en chocolat sont cachés dans le jardin que petits et grands s'amusent à débusquer. Au Gondwana, c'est toute l'année que les Gondwanais passent le temps à chercher, non pas les œufs de Pâques, mais la date des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, locales et autres. Notre leader bien-aimé a bien caché ces dates. On cherche, les électeurs cherchent toute l'année et ne trouvent pas. Haha, président fondateur nous le dira quand il le voudra, quand il sera trop tard pour les autres, mais pile poil à temps pour lui. Mais une fois la date des élections trouvée, ben la chasse aux œufs de Pâques continue encore, mes amis, surtout le jour du vote, où les électeurs gondwanais de l'opposition cherchent leur bureau de vote comme les enfants cherchent les œufs de Pâques. Revenez l'année prochaine, mes amis, ici même, on célébrera encore Pâques en toute communion. À demain.
À demain, Maman. Et merci également à Pauline Berthélémy à la réalisation, à Xavier Besson à la rédaction en chef de cette demi-heure africaine. Et il est temps pour moi de vous passer la main, Andréane Mellard, bonjour.
Bonjour Nemo, bonjour tout le monde, bienvenue. C'est le début de 3 heures d'infos que l'on va passer ensemble et avec toute la rédaction d'RFI. On va parler de l'Ukraine après la fin de la trêve décidée par la Russie pour Pâques, les célébrations de Pâques justement dans le monde dont on va parler aussi, ainsi que de la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique aussi. Au programme Chronique Invitée, reportage et le journal dans 30 petites secondes.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.